Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Journée d'hommage donc à Samuel Paty, un an après ce geste d'une barbarie inouïe, la décapitation d'un professeur par un jeune russe d'origine tchétchène. Au cœur de ses motivations, des caricatures du prophète Mahomet que le prof avait montré lors d'un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression, et précisément l'intitulé de ce cours « Situation de dilemme, deux points, être ou ne pas être Charlie ». Aujourd'hui, parmi les nombreuses prises de parole officielles, celle du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Samuel Paty a eu raison. Raison de faire cours sur la liberté d'expression, raison d'enseigner, même ce qui est difficile, raison d'expliquer ce que sont la tolérance, l'humanisme, les valeurs de notre République. Nous ne l'oublierons jamais. Son sacrifice n'a pas été vain. Il nous engage et il nous oblige à combattre pied à pied l'ignorance et le fanatisme, car céder sur nos valeurs serait renoncer à ce que nous sommes. C'est le sens de l'inauguration de cette plaque. Nous souhaitons également que des écoles, des collèges et des lycées prennent le nom de Samuel Paty et que cela continue à naître partout sur le territoire. Ainsi, nous veillerons à ce que son souvenir reste à jamais gravé dans le marbre de notre institution et encore plus dans l'esprit de tous ses membres, c'est-à-dire de tous les citoyens de France.
Voilà, Jean-Michel Blanquer qui veut qu'on enseigne aussi la laïcité. C'est un vaste programme, ça, enseigner la laïcité. On fait comment, Françoise Laborde ?
C'est que déjà, quand on voit à quel point on rend hommage, j'allais dire au rabais, quand même, à Samuel Paty. Franchement, une réunion au ministère avec les anciens ministres, les mondanités habituelles, une plaque au ministère.
Vous auriez fait quoi, vous, ministre ?
Je trouve que déjà, expliquer qu'on va réfléchir pour savoir si on va donner le nom Samuel Paty à des lycées, on n'a pas besoin de réfléchir pendant 20 ans quand on est ministre de l'Éducation nationale, si on considère que c'est une urgence. Après la mort du préfet Erignac, dans toutes les préfectures de France, il y a une plaque à la mémoire de Pierre Erignac qui a été posée sur les murs de toutes les préfectures de France. On aurait pu imaginer que dans le cas de Samuel Paty, il y ait une initiative de cet ordre, que dans tous les... les établissements, les cités scolaires, on met une plaque à la mémoire de Samuel Paty, parce que c'est aussi le symbole d'une victime de la barbarie au service justement de l'éducation. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une éducation au rabais. Une commémoration au rabais.
Des hommages au rabais. Mais sur la laïcité, comment est-ce qu'on fait pour... Voilà, bonjour, prenez place, vous êtes 30 dans la classe. Aujourd'hui, on va vous parler de la laïcité. On fait comment? On commence par où?
Déjà, on déconstruit, pour employer un mot à la mode, tout le discours qui a été entretenu pendant des années par l'Observatoire de la laïcité, M. Bianco, et son soutien, M. Cadenne, qui considérait que la laïcité était la juxtaposition des religions, et qui s'appuyait sur toutes sortes d'officines et d'associations comme Coexister, qui est une association parfaitement infiltrée par tous les religieux, qui sont très contents de s'entendre entre, en effet, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, je ne sais pas quoi, et qui disent la laïcité, c'est ça, on est tous ensemble, on est tous amis, on s'aime, et donc c'est la laïcité, on se respecte les uns les autres. Et c'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est pas l'idée qu'on a des convictions et respecte et on les met côte à côte. La laïcité, c'est un principe français que les autres ont du mal à comprendre, qui consiste à dire que la religion est une philosophie comme une autre, premièrement, et que deuxièmement, elle ne sort pas de la sphère privée. Et que dans la sphère privée, on a le droit de considérer qu'il est important de dire le bénédicité avant de passer à table, ou d'enlever ses chaussures avant de rentrer dans la chambre à coucher. C'est des règles domestiques, ou c'est une philosophie personnelle, mais que ça n'a rien à voir dans la cité. Et que l'État n'a pas à se mêler de ça, et que le fait religieux n'a pas à faire irruption dans la vie publique. C'est très simple. Le problème, c'est qu'on recule sur le terrain de la laïcité, parce que précisément, on laisse avancer des religions qui ont envie d'occuper l'espace, et pas simplement l'espace religieux, l'espace social et politique.
Sur le site du gouvernement, la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir une religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Pierre Licia.
Oui, c'est vrai, mais encore faut-il ensuite que ce principe-là, qui est somme toute assez clair, puisse prendre corps devant une salle de classe où vous avez 30 ou 40 gamins qui vous écoutent.
Voilà.
Moi, j'ai été assez frappé au cours de cette journée d'entendre des témoignages de gamins, de collégiens, de lycéens. Quand on leur tendait le micro, quand vos confrères leur tendaient le micro en leur disant qu'est-ce que vous retenez finalement de cette journée de commémoration, quels sont les messages que vous retenez, tous les gamins, en tout cas beaucoup d'entre eux, disent bah, « oui, on a bien retenu la leçon, on sait que maintenant on fera plus attention quand il faudra parler de religion ». Mais c'est le, plus c'est le pire, ouais. C'est ouais. Le pire des reculs en matière de laïcité. Précisément, c'est pas ça la laïcité, c'est pas « attention, on parle de religion, attention, ça devient sacré ». Précisément, c'est ce que disait Françoise à l'instant. Précisément, la République laïque aujourd'hui, elle, la laïcité, c'est la liberté. C'est la liberté, effectivement, de croire, c'est la liberté d'exercer son culte, c'est la liberté aussi de ne pas croire. Et précisément parce que nous avons cette liberté et que l'État le garantit, eh bien, l'État ne vous soumet à aucun dogme,
est-ce qu'il encourage
aucune
pas
philosophie.
Est-ce que l'État n'encourage pas en disant c'est aussi la liberté de ne pas croire? Est-ce que c'est pas un
encourager
signal
quoi?
Est-ce que c'est pas aussi encourager à ne pas croire, justement?
Mais non, chacun, non, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Simplement, Françoise le disait tout à l'heure, une religion, c'est quoi si ce n'est un dogme, une idée, un concept? En France, aujourd'hui, dans notre République, on peut remettre en cause tous les dogmes, tous les concepts, toutes les idées, toutes les philosophies. La religion en est une. On peut critiquer une religion, on peut même insulter une religion, pas les fidèles. Pas les fidèles. On peut avoir des mots très violents à l'égard d'une religion, de la même manière qu'on peut avoir des mots très virulents à l'égard d'un concept ou d'une philosophie.
Vous avez raison de rappeler que pas les fidèles, parce que ça devient effectivement un délit.
Mais ce sont des choses tout à fait différentes. Mmh. Entre remettre en question une idée, remettre en question un concept, c'est le propre des Lumières, bon sang, c'est le propre de ce qui fait la France. Remettre en cause un concept, et même on a le droit de dire, comme Mila le dit, on a le droit de comme elle le fait avec ses mots, de mettre ses doigts dans les orifices anals de qui elle veut, puisqu'il s'agit d'un concept. Mais c'est précisément ce qu'elle dit, et c'est précisément ce qui lui vaut d'être menacée de mort aujourd'hui. Mmh. Donc je dis simplement, on a le droit en France, on a le droit aussi de s'en offusquer. Mais on n'a pas le droit de condamner à mort ou de menacer de mort pour cela.
Bon, jusqu'à présent, il n'y a aucun de vous qui m'a dit comment on enseignait la laïcité à l'école.
Mais alors, pardon, j'ai un peu monopolisé la parole. Mais autre chose qui me frappe, c'est que dans tous les témoignages qu'on a entendus, c'est que les professeurs sont totalement démunis face à ça. C'est qu'aujourd'hui, les professeurs ne savent pas comment faire vivre ce principe de laïcité dans les classes. Et ils prennent des pincettes. Et c'est là, malheureusement, où c'est dangereux. C'est à partir du moment où vous prenez des pincettes pour parler d'un principe de base fondamentale de notre socle républicain.
Maxime Yedo.
Pour enseigner la laïcité, je pense qu'il faut déjà que le principe soit clair. Et quand j'entends un principe clair, qu'il ne soit pas remis en question. C'est-à-dire que quand la personne l'énonce, quand la personne l'explique, quand la personne le développe, il faut que ce soit quelque chose de naturel, de spontané. Il ne faut pas qu'en permanence, comme ça a été de trop nombreuses fois, hélas, ces dernières années dans le débat public, il y ait des tergiversations, qu'on confonde avec des expressions malheureuses en quelque sorte. La laïcité, d'un côté, le racisme. C'est-à-dire qu'on commence à faire croire dans ce pays que la laïcité, en quelque sorte, c'est l'attaque des croyants, et que donc attaquer Dieu, c'est en quelque sorte, c'est, et être laïque de cette façon, c'est attaquer les croyants. Ça, je pense que déjà on n'a pas été assez clair, et on n'a pas été assez clair, la preuve, parce que des élus aujourd'hui en font leur discours. Et ensuite, je pense que c'est tout un principe d'éducation qu'il faut revoir, et les profs n'ont pas à apporter leur jugement personnel dans leurs cours. Or, c'est ce qu'on voit trop souvent. Il y avait mercredi un article dans l'Union de Reims d'une prof qui est enseignante dans le lycée en Côte d'Or et qui expliquait qu'on ne devait pas mettre de la République et de la laïcité partout. Parce que selon elle, et c'est très important, la laïcité, ça pointait du doigt telle communauté ou telle communauté. Mais elle n'a pas déjà apporté son jugement personnel lorsqu'elle est devant ses élèves.
C'est-à-dire
déjà,
qu'on recule avant même d'enseigner.
Mais c'est exactement ça. Mmh. Et ensuite, il y a le second problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les enseignants, est-ce que l'éducation nationale, de ce que ça signifie de plus grand, de plus administratif, est capable de transmettre ce genre de savoir? Je relisais cette semaine, par exemple, un petit livre qui fait 100 pages, qu'on peut trouver facilement, qui est L'Argent de Charles Péguy. Et il explique très bien ce que déjà les fameux hussards noirs de la République ne sont plus. C'est-à-dire des personnes qui sont capables d'aller choper un gamin et par leur autorité naturelle, leur savoir, leur connaissance, devant une classe ou face à un élève, sont capables de les prendre par le col, c'est l'expression qu'il désigne, et de les amener au sommet par des connaissances, par des intermédiaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le personnel et surtout, on va dire, l'autorité administrative capable de faire comprendre ce message?
Alexis Bachelet, est-ce qu'à Colombes, on enseigne la laïcité? Et si oui, comment?
On l'enseigne d'abord à l'école parce qu'il y a une charte de la laïcité qui avait été...
Pardonnez-moi, mais
ça, c'est un débat.
Je crois que c'est pas parce qu'il y a une charte de la laïcité que tout le monde enseigne la laïcité à l'école. Je crois pas.
C'est pour que ça le soit. Ouais. Et en tout cas pour que ces principes, normalement, ils sont dans toutes les écoles, ils sont affichés pour que chacun se rappelle bien de quoi on parle. Et je crois que quand on parle de la laïcité, on parle d'abord de la France et de la République française. Moi, j'essaierai d'expliquer ça à mes élèves en leur disant que sur le fronton de nos mairies, il y a liberté, égalité, fraternité. Mmh. Il pourrait y avoir laïcité. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans laïcité. Il n'y a pas d'égalité sans laïcité. Parce que c'est aussi un principe qui assure une certaine fraternité, une certaine égalité. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut expliquer aussi la laïcité dans ce qu'elle est un élément constitutif de notre modèle républicain, et que c'est ce qui nous garantit du respect les uns envers les autres, qu'on soit croyant ou pas. C'est ce qui garantit aussi la neutralité de l'État, parce que c'est quand même ça d'abord, la laïcité. La loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire de France où l'État, il y avait une religion d'État. Voilà, c'est la religion catholique. La France était très chrétienne il y a plusieurs siècles. Et donc, à un moment donné, quand on a créé la République, eh bien, on a voulu, et d'ailleurs, ça s'est fait dans la douleur. Enfin, ça s'est pas fait. Oui. La loi de 1905, d'ailleurs, s'est fait bien après la Révolution.
Il y a encore des stigmates aujourd'hui.
Et même encore aujourd'hui, il y a des guerres scolaires. Vous voyez, en ce moment, on discute des contributions de la commune aux établissements privés sous contrat.
Ouais.
Et c'est dur.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que.
Expliquer.
C'est-à-dire qu'il y a des règles de calcul.
Ouais.
Ça coûte assez cher aux collectivités, mais c'est une obligation, c'est la loi qui nous oblige à financer ces établissements. Et bah, nous, on veut peut-être. Enfin, on a des contraintes aussi sur les finances publiques locales. Donc, eux, ils disent on veut plus. Et nous, on dit bah non, on va. Et donc, on a des pressions aussi pour. Voilà, c'est des. Encore aujourd'hui, c'est des sujets d'actualité.
Et qui arbitre tout ça ? C'est la mairie, du coup ?
Bah là, en l'occurrence, c'est nous qui allons arbitrer parce que c'est le budget. Après, il y a des règles de calcul. Il faut qu'on se mette d'accord sur les règles de calcul. Enfin, c'est des équations assez complexes, mais c'est vrai que dans une collectivité locale, les sujets de laïcité, c'est des sujets du quotidien.
Mais j'ai l'impression, en vous entendant, que du coup, pour les, enfin, pardonnez-moi, hein, si j'essaye de lire dans vos yeux, mais pour les établissements privés ou sous contrat, vous voudriez donner un peu moins d'argent, c'est ça ?
Pas forcément, mais on n'est pas forcément d'accord sur les modalités de calcul de cette contribution. Voilà, il y a des règles. Et puis après, vous savez, il y a des interprétations. Donc, eux, ils veulent faire rentrer des choses dans les modes de calcul. On n'est pas forcément d'accord. Et donc, la tendance, c'est quand même qu'ils n'acceptent pas, par exemple, pour eux, qu'on diminue la contribution de la collectivité. Mmh. Voilà, c'est une ligne rouge. Quoi.
Mmh. Bon, alors c'est un peu comme avec les
alors,
ministres.
Alors que c'est des contributions assez importantes.
Et le ministre du budget, c'est lui qui alloue les budgets des ministériels. Et puis, à chaque fois, il y a évidemment les ministres qui défilent dans son bureau en disant bah, « moi, je voudrais plus ». Pardon, Pierre Lissa, vous vouliez prendre la parole.
Oui, non, je voudrais prendre la parole parce qu'en fait, en vous écoutant, quelque chose m'a frappé aussi, c'est que beaucoup de professeurs interrogés qui disent « nous, on n'est pas armés, on n'est pas outillés pour enseigner la laïcité », beaucoup se défaussent un peu. Voilà, entre guillemets, en disant « mais moi, vous savez, je suis professeur de mathématiques, je suis pas professeur d'histoire ». Et en fait, on a laissé le champ de la laïcité et plus largement le champ de l'apprentissage de la citoyenneté. Ça sert aussi à ça, l'école, apprendre à devenir un citoyen. Et on a laissé ça à des professeurs d'histoire géo qui, contraints par leur programme, aujourd'hui, n'ont plus le temps de boucler leur programme et considèrent du coup que les sujets d'éducation civique, alors laïcité, on n'en parle même pas, ne sont pas essentiels. Et vraiment, je crois qu'on a fait l'erreur de considérer la laïcité, parce que c'est un principe républicain, comme étant quelque chose d'acquis. Et que comme ça a été considéré comme acquis pendant si longtemps, on s'est accommodé, ci et là, de petites incartades au principe de laïcité, considérant que finalement, la laïcité n'était pas remise en cause dans
Qu'est-ce
son ensemble.
Qu'est-ce que vous appelez
incartade ? Et, bah, on a quelques petits renoncements, quelques petits coups de canif au principe de laïcité, que ce soit dans les salles de classe, que ce soit écoles, que ce soit...
Des petits ou des grands renoncements ?
Bah, le problème, c'est qu'à force de renoncements, à force de coups de canif, on se réveille un beau matin avec la gueule de bois, on se réveille un beau matin avec toute une génération qui ne comprend pas aujourd'hui qu'on puisse montrer des caricatures de Mahomet dans une salle de classe, et qui considère, pire que ça, que c'est une provocation. Mais... on ne peut pas demander aujourd'hui à des professeurs de maîtriser ces sujets-là quand vous avez même des élus, quand vous avez des personnes qui sont censées maîtriser justement et pouvoir défendre ces principes-là, qui sont eux-mêmes pas à l'aise avec
Françoise
ce principe-là.
Françoise Laborde et ensuite Maxime Bidot.
Oui, mais c'est vrai, et c'est vrai qu'à la décharge des enseignants, étant donné que l'autorité tutelle est tellement vague sur quelle laïcité... Rappelez-vous l'époque où il y avait la laïcité inclusive. Moi, quand j'entendais ça, je me disais, ça veut dire quoi, la laïcité inclusive ? Alors, je suis laïque, mais en même temps, je t'inclus, alors j'ouvre mes bras. Enfin,
donc on a tout vu. C'est pas dû en même temps.
Oui, c'est... non, même avant. Mais le problème... premier accroc, ça a été, j'ose pas, les gamines voilées qui arrivaient en classe et le fait qu'en effet, on n'a pas pu se mettre d'accord là-dessus. Donc, il faut en effet... L'école aurait dû rester, ce qu'elle n'est plus, hélas,
un
temple, le mot est mal choisi,
un sanctuaire
absolu de la liberté de conscience. Et au-delà de la laïcité, moi, ce qui me consterne aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend plus la capacité d'analyse, l'esprit critique, parce que dire la laïcité en sautant comme un cabri, ça avance nulle part. Mais si on n'apprend plus ces classiques, si on n'apprend plus ces textes fondamentaux de la pensée française, si on ne lit plus Molière parce que qu'allait-il faire dans cette galère, et que dans Molière il y a des barbaresques, parce que ce sont des barbaresques qui kidnappent la pauvre petite jeune fille, et que c'est dans toutes les pièces de Molière, et qu'un jour on dira oui mais c'est pas politiquement correct quand même, parce que ça laisse entendre que franchement ces petites gamines ont été kidnappées par les barbaresques. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des fondamentaux sur lesquels on recule petit à petit. On ne demande plus aux élèves de faire un effort pour en effet comprendre, analyser, avoir un esprit critique. Et à l'arrivée, il y a en effet un concept tout simple,
qui emporte tout. Et c'est pour ça que le ministre de l'Éducation prend, le taureau par les cornes. Peut-être pas, mais en tout cas, il stabilobosse ce principe de laïcité qu'il veut maintenant, désormais, faire enseigner aux élèves.
Bien sûr, surtout que le vrai problème, à mon sens, aujourd'hui, c'est que ce n'est plus du tout un débat politique, ce n'est plus seulement des dites vulgaires dans des journaux. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un objet politique au sens très large du terme, mais il s'agit quand même là maintenant de sauver une génération. C'est-à-dire, ça commence à partir de ma génération, mais surtout les générations des petits frères, c'est-à-dire le début des années 2000, parce que c'est eux aujourd'hui chez qui la laïcité ne veut plus rien dire. C'est eux, il y a cette semaine dans Marianne un sondage exclusif justement sur le ressenti de ce qu'est la religion, de ce qu'est la laïcité, l'interrogation par rapport à Samuel Paty, et on s'aperçoit que 22% encore de cette génération trouvent que le fait de montrer des caricatures, c'est provoquant. Il y en a 9% qui ne condamnent pas et 5% qui trouvent que le terroriste a eu raison. Donc si on ne prend pas très vite en main ce problème, c'est-à-dire qu'une fois de plus, si on ne se met pas d'accord, mais ce que je veux dire par s'entendre d'accord, c'est qu'il faut l'autorité nécessaire des profs et de l'éducation nationale pour établir noir sur blanc et même dans les esprits ce qu'est la laïcité. Je veux dire, il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Régis Debray, il dit en quelque sorte, ça, la laïcité, ce n'est pas très compliqué à comprendre, la laïcité c'est une frontière. Or, la frontière, ce n'est pas un mur, ce n'est pas infranchissable. La frontière, ça délimite. Et ben, c'est à peu près ça, la laïcité. Ça doit délimiter l'espace public, l'espace privé. C'est exactement ça qu'on doit faire saisir à une génération.
Le journaliste essayiste Maxime Yedo, l'autre journaliste, beaucoup de confrères ce soir dans le studio, Françoise Laborde, l'adjoint apparenté Europe Écologie des Verts, au maire de Colombes, Alexis Bachelet, le porte-parole de Libre, Pierre Licia, sont avec vous jusqu'à 20h. Ce sont les débats d'Europe Soir. On revient dans un petit instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Nous voilà de retour dans les débats d'Europe Soir avec la journaliste Françoise Laborde, l'essayiste Maxime Yedo, l'adjoint apparenté Europe Écologie Les Verts au maire de Colombes, Alexis Bachelet, le porte-parole de Libre, Pierre Licia. On parlait effectivement de ces commémorations et de ces hommages rendus aujourd'hui à Samuel Paty. Écoutez le Premier ministre Jean Castex.
Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République. Et avec elle, à nos libertés fondamentales, dont elle est la garantie autant que la condition. Nous devons tous les jours rester fidèles à la mémoire de Samuel Paty. Car avec sa mort, c'est une part de nous-mêmes, c'est une part de l'idéal républicain qui ont été pris pour cible. Vivre avec, c'est difficile, mais rien ne saurait être pire que l'oubli.
Voilà, donc cet hommage de Jean Castex, des grands mots, et puis finalement...
Finalement, un discours qu'on a l'impression d'avoir entendu. Mais j'invite d'ailleurs Jean Castex à garder soigneusement ce texte qui va pouvoir lui resservir à chaque fois qu'il y aura un hommage. Parce que ces phrases, on les a déjà entendues des milliers de fois, enfin pas des milliers grâce au ciel, mais un certain nombre de fois. Et c'est exactement la même chose.
Moi, ce qui me frappe. Grâce au ciel, quand même.
Oui, ma vieille éducation judéo-chrétienne. C'est mon côté gaulois. Non, non, c'est le ciel d'Astérix.
Le ciel
nous
tombe sur la tête.
Voilà, qui nous tombe sur la tête. Voilà, partout à tisse. Non, mais si vous écoutez par exemple quelqu'un comme Didier Lemaire, qui est le philosophe, le professeur de philosophie, qui a écrit ce livre qui s'appelle lettre d'un hussard noir de la République, il vous dit très clairement que rien n'a changé. Depuis un an, il est toujours menacé. On lui a proposé un autre poste, mais dans une banlieue qui était aussi problématique que celle dans laquelle il enseignait avant. Les professeurs qui prennent des risques, qui ne sont pas du tout accompagnés, soutenus, ou pas suffisamment en tout cas, et on les déplace comme ça d'établissement en établissement, on ne sait pas quoi faire d'eux, et il y a beaucoup de profs qui préfèrent se censurer plutôt que de s'attirer des ennuis, et avec les élèves, et avec la hiérarchie, et avec les parents d'élèves qui, pour un oui, pour un non, interviennent maintenant dans les établissements scolaires pour se plaindre du cours du professeur.
Pierre Lissière ?
Oui, je partage ce que Françoise Laborde vient de dire, effectivement, alors les propos de Jean Castex. C'est pas qu'on les a entendus, mais Françoise Laborde disait tout à l'heure, il s'agit pas de crier laïcité et de sauter comme un cabri pour que le concept infuse et le concept soit compris. Mais là, c'est exactement ce que fait le gouvernement. On célèbre la laïcité dans son concept, mais à aucun moment on vient expliquer ce que signifie ce concept. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de hussards noirs de la République, si vous voulez, mais de gens qui sont prêts à prendre ce flambeau-là, à faire de la pédagogie, à expliquer ce que concrètement ça signifie, et pas simplement de célébrer ce concept-là. On parlait tout à l'heure de ceux qui arrivent à parler de ce concept-là. Je pense à Richard Malka aussi. Quand vous entendez Richard Malka, vous comprenez, ça prend corps tout de suite.
Qui se trouvait être l'avocat qui a défendu Mila, dont vous parliez tout à l'heure.
Absolument, ouais. Mais il arrive à faire vivre ces questions de laïcité. Et effectivement, demander à un professeur d'enseigner la laïcité, si lui-même, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il considère qu'il est prof de physique et que la laïcité, c'est un concept qu'il a pas forcément, qu'il maîtrise pas forcément, mais si lui-même n'est pas en maîtrise totale de ce concept-là, et si c'est pas naturel pour lui, comment voulez-vous qu'il puisse l'enseigner, le transmettre convenablement à des élèves qui, pour certains,
sont dans... Est-ce que le concept est déjà défini à la base ? Parce que tout à l'heure, je vous ai lu un petit paragraphe de l'immense définition qu'il y a sur le gouvernement. Je vous lis encore un autre paragraphe, et vous avez deux heures pour plancher, j'allais dire. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Vous voyez, c'est-à-dire que on est dans
chacun la sienne en fait.
On revient sur ses pas. C'est le en même temps.
Mais c'est le en même temps, et c'est d'ailleurs le problème. Le problème, c'est pour ça que je dis que pour enseigner, pour être en capacité de donner aux profs la bonne règle en quelque sorte et les clés en main pour savoir l'enseigner, il ne faut pas que l'État vacille ou fasse du en même temps. Et je trouve que ça a déjà été un trop nombreux jeu politique. C'est-à-dire que on parlait des mots. Le problème, c'est que les gens, on a beau les répéter, ces mots, eux, ils vivent dans la réalité en quelque sorte. Quand on entend à peu près tous les trois mois que nous ne céderons rien, qu'ils ne passeront pas, quand on voit au fur et à mesure certaines agressions, certains actes commis, certaines infractions, on s'aperçoit que non seulement on a cédé depuis très longtemps et ils continuent à passer, donc c'est problématique. Et voyez, la laïcité a aussi été un problème. Rappelez-vous, on était en 2020, on était en fin de l'année, il y avait tout un débat entre deux ministres, notamment Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, qui accusaient les Verts de Strasbourg de financer une mosquée ou une association turque, et en quelque sorte ils accusaient les Verts d'avoir de l'ingérence en leur donnant des financements. Ils avaient sans doute raison, sauf que quelques semaines avant, on a trouvé la fameuse phrase « pas un euro de la République aux associations qui ne veulent pas de la République », et bien quelques semaines avant, le gouvernement avait pourtant donné des autorisations pour une association, pour une école privée hors contrat. Donc vous voyez, moi je veux bien, même au sein de ce gouvernement, où visiblement on a décidé de choisir la laïcité comme cheval de bataille principal de ce quinquennat, mais quand on la scène...
Je suis pas sûr de ça. Ah oui,
je le dis avec un minimum d'ironie, sauf que entre les discours, on aime mettre la laïcité à toutes les sauces, le fameux en même temps et les actes concrets où on voit que c'est plus une arme politique pour mettre à terre certains adversaires et pas une conviction profonde, ça me gêne énormément parce que les gens sur le terrain sont totalement perdus, ils n'ont plus de véritables repères.
Ouais, alors vous parliez des profs, hein, Pierre Lissière, et c'est vrai que ce qui revient souvent, et d'ailleurs dans la bouche des parents d'élèves, c'est qu'il faudrait déjà que les élèves apprennent à lire et à compter. Donc on arrive quand même à ce concept avec des profs qui vont découvrir... Je vous ai lu quand même quelques paragraphes de cette définition.
Mais ça, c'est pas plus possible, ça.
C'est difficile pour eux. Et Luc Ferry, qui était dans ce studio hier, vient de sortir un livre avec, dans la préface, une comparaison qui est assez édifiante, puisque nous avons 80% de réussite au bac et nous avons 10% dans la même année de promo de bac, 10% d'illettrés. C'est-à-dire que
c'est dingue.
On se retrouve dans une école. Alors, depuis longtemps, on dit que l'éducation nationale est une usine à gaz. Mais alors là, on se retrouve quand même avec 80% de réussite au bac, avec un numerus clausus qui est à chaque fois, on s'arrange, 10% d'illettrisme, et des profs maintenant qui, voilà, pour certains, ont une spécialité et qui vont découvrir la laïcité en disant, voilà, maintenant, il va falloir enseigner la laïcité. Mais par où on commence ?
Il faut commencer.
18h29, mais au bout de 29 minutes, on n'a toujours pas le début d'un commencement de savoir comment on enseigne la laïcité.
Mais il faut surtout rétablir, une fois de plus, l'école. C'est ce que vous venez de dire, Pierre. Il y a un texte, pardonnez-moi de faire des comparaisons littéraires, mais il est essentiel. Paul Valéry, qu'on ne présente plus, a fait une conférence. On est en 16 janvier 1935. Et il explique, il a des phrases très justes sur l'école. Il explique qu'en réalité, de plus en plus, l'école ne sert pas à devenir un citoyen, c'est-à-dire un citoyen avec certaines compétences pour pouvoir voter, pouvoir réfléchir, pouvoir penser, mais juste des gens à qui on donne 2-3 éléments à comprendre pour passer un diplôme à peu près brillamment. Mmh. C'est typiquement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le bac. Et le problème, c'est ça, c'est exactement le lien que je veux faire avec la laïcité, c'est qu'aujourd'hui, comme on a enlevé le pouvoir de l'école,
en fait,
mais exactement, parce que comme on a fait de l'école uniquement un petit instrument pour délivrer quelques compétences, quelques connaissances, non pas pour réussir dans la vie, mais pour passer le bac et pour passer quelques diplômes, et bien aujourd'hui, on n'a plus les profs nécessaires pour enseigner des véritables principes nécessaires à l'émancipation du citoyen.
Il faut reposer la question de savoir quel est le rôle de l'école aujourd'hui.
Pierre-Lifia.
L'éducation nationale, ce n'est pas l'instruction nationale, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'un professeur, sa mission, c'est à la fois d'instruire, de transmettre du savoir, savoir lire, écrire, compter, etc. Mais c'est aussi de fabriquer des citoyens libres, éclairés. C'est ça aussi la mission de l'école. Et j'ai le sentiment qu'on a un peu laissé ça de côté et que les professeurs se sont, à tort ou à raison, ont considéré que l'éducation, éduquer un enfant, ça relève peut-être du cercle familial et des parents. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui,
ça,
on se retrouve...
C'est l'éternel débat,
on se retrouve,
hein, de savoir...
Oui, mais
c'est, non, c'est, qu'est-ce qu'il y a, Alexis Bachelet ?
Enfin, pardon, mais l'éducation, ce n'est pas le monopole de l'éducation nationale. C'est copartagé avec les familles, avec... je veux dire, c'est pas nous, c'est pas très original. Et d'ailleurs,
puisque vous étiez dans les chiffres tout à l'heure, les chiffres de la commune,
quand les familles sont défaillantes,
le ratio, c'est quoi? C'est 50-50.
Quand les familles sont défaillantes, souvent, ça fonctionne pas à l'école. C'est-à-dire que c'est quand les familles sont défaillantes, quand les familles sont pas derrière les enfants, l'enfant, il est en échec scolaire et il s'intéresse pas à ce qui se passe bien dans l'école parce que il y a des ratios, il y a des études au kilomètre qui montrent que une famille qui s'implique pas dans l'éducation de ses enfants, y compris dans la surveillance des devoirs, dans l'intérêt montré aux enfants. Enfin, moi, j'ai des enfants en bas âge, donc je leur explique pourquoi c'est important d'aller à l'école, qu'est-ce qu'on doit y faire,
ça permet aussi de réfléchir,
ça permet aussi en grandissant de réfléchir à ce qu'on va faire en tant qu'adulte, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui font peut-être pas tous ce travail-là et puis après il y a aussi des croyances individuelles qui peuvent aller contre ce qui est transmis à l'école.
Mais ça
c'est vieux.
Donnez-moi
comme
un exemple.
Oui, mais
c'est
sauf vieux que comme l'école doit s'affirmer par rapport à ça.
Vous reprenez, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été écrites dans l'éducation nationale de l'époque de la fin du 19e siècle, sous la Troisième République. Les patois, vous aviez des petits-enfants qui venaient parler en patois à l'école de la République. Bon, ils n'avaient pas le droit. Ils se faisaient reprendre. Il y avait même parfois un peu des sévices corporels. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que la langue de l'instruction, c'était le français. Mmh. Il fallait parler français à l'école. Il fallait aussi adhérer aux valeurs transmises par l'instituteur, c'est-à-dire la nation voulait aussi construire une nation plus forte, parce qu'il faut se rappeler contexte, face à l'Allemagne, etc., la guerre 14-18 après. Et donc, il y avait cette idée qu'il fallait effectivement fabriquer des petits Français qui se sentaient Français. Et donc, aujourd'hui, on retrouve les mêmes tensions, les mêmes frictions, parce que c'est vrai, la définition de Régis Debray est intéressante sur la frontière, mais quand on y réfléchit, même d'un point de vue historique, il n'y a aucune frontière qui soit intangible.
Bien sûr.
Il y a des pays qui ont disparu. Ils avaient des frontières, ils ont disparu. Il y a d'autres pays qui n'existaient pas et qui sont créés. Donc en réalité, la laïcité, j'ai envie de dire, c'est presque un combat au sens où ça n'est pas une définition que vous posez comme ça au milieu de la table en disant aux gens, voilà, c'est ça, il faut adhérer. C'est en permanence des convictions, Ouais, c'est une conviction. C'est une conviction.
Une feuille de route. Faut une feuille de route quand même.
Mais faut une clarté.
Les
faut une clarté
sûre en disant.
Les professeurs, ils ont une définition.
Oui, mais c'est la leur.
Ils
c'est
ont
pas
parfois
ça qu'on
du mal à la faire transmettre.
Mais non, mais c'est ça le problème. C'est qu'on dit les professeurs ont une définition, mais on leur demande pas d'avoir une définition. On demande d'avoir la définition qui est celle qui est le fruit de discussions littéraires, politiques, etc. Aristide Briand. D'ailleurs, lui-même, Aristide Briand, dans la fameuse loi de 1905, ne parle pas de laïcité. Vous lisez l'entièreté de la loi. Il n'y a pas de mot laïcité. Il y a ensuite des rectifications, on l'a porté en 88, etc. En 2004, on a fait plusieurs modifications, on a essayé d'éclairer le principe. Mais en soi, ce n'est pas dedans. Donc il faut essayer de se fier à ça. Et plus que le mot laïcité, il faut savoir mettre dans la tête des profs ce qu'est l'esprit de la laïcité. C'est le plus important.
Françoise Laborde.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous nous demandez un exercice impossible, c'est-à-dire définir la laïcité, donner des règles pour pouvoir l'enseigner à l'école. Mais je pense que d'abord, on le voit, la laïcité, elle se définit aussi beaucoup par défaut. Et elle s'appuie aussi sur un certain nombre de textes. On a cité Régis Debray, qui d'ailleurs a fait un livre qui doit s'appeler Manuel de la laïcité ou quelque chose comme ça. On pourrait imaginer que l'éducation nationale décide de mettre au programme un certain nombre de textes ou demande aux professeurs
de reprendre
un certain nombre de textes pour travailler sur des textes. Mais,
Laïque, le livre de Régis Debray.
Non, mais pas en sixième, évidemment. Mais enfin, je veux dire, on peut l'imaginer. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on n'enseigne plus aux enfants, alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais l'histoire dans sa chronologie, où on n'enseigne plus la littérature dans sa chronologie, où on ne donne plus des référents historiques pour raconter comment un pays s'est construit, comment une culture s'est construite, comment une civilisation s'est construite. Pourquoi on ne donne pas envie aux enfants, par exemple, d'aimer les textes? Pourquoi on n'apprend plus aux enfants d'apprendre par cœur? Quand on apprend la légende des siècles de Victor Hugo, quel que soit, j'allais dire, son milieu familial, son origine culturelle, sa religion, on est porté par la beauté des vers. Je pense que le fait que l'éducation nationale ait renoncé à tout ça et d'une certaine façon adapté son niveau au peu d'exigences en se disant, mon Dieu, les pauvres élèves, ils n'ont pas les moyens, donc au fond, on va faire un service minimum de l'exigence, eh bien, on arrive à cette absurdité qui font qu'il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus de culture générale, il n'y a plus de capacité à prendre du recul par rapport aux informations, et il y a un corpus qui, du coup, est triomphant, c'est celui de la religion. C'est aujourd'hui, on parle essentiellement de l'islam, mais ça pourrait être n'importe quelle autre religion. Aux États-Unis, ils ont les évangélistes qui ont des influences aussi dramatiques dans les milieux scolaires.
Pierre Licia, et après je vous poserai une question parce que la pub arrive. Oui.
Oui, j'allais dire pardonnez-moi de comme personne ne veut se coller au rôle du vieux réac, je vais m'y coller. Je dis
on pourquoi, Maxime pourquoi je dis, surtout sur le vieux.
Pourquoi je vous dis ça? Non mais parce que
jeune, ça peut suffire.
Quel est ou du jeune réac si vous préférez. Mais aujourd'hui, il faut remettre l'église au centre du village, en tout cas, il faut remettre l'école et surtout le professeur, il faut remettre le professeur au centre de l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des gamins qui ont un conflit d'autorité entre d'une part les parents qui sont la figure tutélaire naturelle pour eux, et le prof qui finalement n'est plus une figure d'autorité chez les enfants et encore moins chez les parents. Quand vous avez des professeurs, quand il y a eu le fameux hashtag pas de vague, qui témoignent en disant voilà, aujourd'hui quand on met une mauvaise note, on se fait engueuler par les parents, alors qu'il y a quelques temps, c'est en ça que je fais le réacte de service, mais il y a quelques temps c'était plutôt l'inverse, c'était les parents qui engueulaient le gamin quand il ramenait une mauvaise note. Quand on en arrive à ce niveau-là, De piétinement, j'allais dire, de la figure du professeur comme étant une figure d'autorité, on en arrive à des extrémités où finalement, comme l'éducation, comme il y a une lacune dans le cercle de valeurs de l'élève, du coup, ce vide-là, il est comblé par autre chose. Et bien souvent, c'est par entre autres, en l'occurrence, la religion, mais par le système de valeurs familiales domestiques. Et j'allais vous dire, pour en terminer là avec mon côté vieux réac, mais mai 68 est passé par là quand même.
Oui, c'est vrai.
Mai 68 est passé. À un moment, il faut le dire aussi, c'est 30 ans, c'est 40 ans où finalement le mot autorité à l'école et le professeur comme étant une figure d'autorité à l'école a été piétiné. Et aujourd'hui, on en arrive là. C'est tout ce que j'avais à dire.
Une pause, vous allez dire d'autres choses parce qu'on revient juste après avec Maxime Yedo, avec Françoise Laborde, Alexis Bachelet et Pierre Licia. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bien entouré ce soir avec Françoise Laborde, Maxime Yedo, Alexis Bachelet et Pierre Licia. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Alors évidemment, depuis tout à l'heure, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir l'inculquer, en tout cas l'enseigner, cette laïcité aux élèves. Est-ce que d'ailleurs, d'une manière générale, et je vous pose la question à vous quatre, est-ce que d'une manière générale, on explique assez bien aux gamins pourquoi on enseigne ? Pourquoi on va vous enseigner la laïcité ? Comment ça a commencé ? Pourquoi est-ce qu'on a fait la laïcité en France ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette séparation de l'Église et de l'État en 1905 dont vous parliez tout à l'heure, Alexis Bachelet ? Est-ce qu'on explique suffisamment pourquoi ? Vous parliez également, Alexis, des enfants. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller à l'école ? Le pourquoi est-il assez bien mis en avant ou pas ? Aujourd'hui, Pierre-Lucien.
Vous me regardez, donc je réponds.
Bah oui,
non mais moi, je crois que
Françoise veut prendre la parole.
Je prends un peu de champ et voilà.
Non, mais moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a en effet l'image fantasmée de l'éducation nationale qui fait quand on a eu son bac, on est une femme ou une jeune femme ou un jeune homme lettré, intelligent, qui tient tout, ce qui est aujourd'hui évidemment un pipotage absolu parce que il y a rien à voir entre le bac, je sais pas, section. Pompe, environnement et le bac maths, physique, chimie. Donc, c'est quand même des bacs qui n'ont rien à voir entre eux.
Je ne connais pas le pompe, environnement, moi. Non.
Si, ça existe. Il y a des sous-sections des bacs. C'est des variants.
Ah oui, c'est des variants.
C'est des variants. Des variants dangereux, absolument. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on fait croire à toute une génération que, or, le bac, point de salut. Et, or, la vérité, c'est qu'on laisse. On incite à rester au lycée et après aller en fac des gamines et des gamins qui n'ont rien à y faire, qui seraient mille fois plus heureux dans des formations plus proches de l'artisanat, de l'entreprise, tout le modèle allemand qu'on nous sert en permanence. Je ne sais pas si vous avez fait des sujets, moi j'ai dû en faire 250 dans ma carrière.
Sur les
à chaque fois. Non, justement, où on montrait à quel point l'apprentissage en Allemagne était une façon formidable pour les jeunes.
C'est vrai en Suisse aussi. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucun snobisme sur le bac en Suisse.
Absolument.
En Suisse, que
absolument.
Vous soyez d'ailleurs issu de l'apprentissage ou d'un bac pro, c'est exactement
ou ingénieur,
comme si vous aviez passé un bac
absolument.
S avec toutes les options.
Et on peut, voilà.
Et on a,
qu'il faut. Ouais. Et on a en effet des grands patrons, patrons de Mercedes qui a commencé comme apprenti en bas de l'échelle, etc. Donc on a ces deux choses complètement folles qui fait qu'on a un système qui est en train d'exploser avec des gamins à qui on ment, à qui on fait croire qu'ils sont bacheliers parce qu'ils ont eu un diplôme, mais qui ne sont pas le niveau du diplôme, ni les outils intellectuels, pour accéder à la fac et pour avoir des métiers un peu exigeants en termes d'organisation, de restructuration, etc. Donc c'est vrai que du coup, on crée des générations d'enfants qui sont aussi malheureux et frustrés et qui seraient beaucoup plus heureux dans une structure et qui les amènerait petit à petit à la réussite.
Initiale, pour me prendre ma question initiale, et qui ne savent toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont suivi tout ce cursus ? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés au bac ? Et pourquoi est-ce qu'il faut faire des études
supérieures ?
Et pourquoi il faut trouver un boulot, etc.
Et pourquoi ils sont en échec après ?
C'est ce que disait Françoise Laborde à l'instant. C'est parce que, en fait, ce sont des élèves à qui on demande d'ingurgiter du savoir, de l'information et de le restituer sans forcément le comprendre. Vous avez cité cette fameuse définition de la laïcité. On peut très bien demain dire, maintenant tous les élèves de France doivent apprendre cette définition. Tous les élèves de France doivent apprendre cette définition. Est-ce que pour autant ils comprendront ce que signifie la laïcité ? C'est-à-dire, apprendre une définition, la recracher, ça ne fait pas de vous, ça ne vous fait pas maîtriser un savoir. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, les attendus du bac, comme les attendus de malheureusement depuis l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, c'est de restituer un savoir qu'on vous a fait ingurgiter parfois de force. Et on n'enseigne plus l'esprit critique. Je vais vous dire une chose, petite parenthèse personnelle. Je suis chargé de TD à la Sorbonne auprès de licences d'étudiants en licence de lettres.
Dans quelle manière
licence en lettres. Ouais. Un TD, donc j'essaye de justement faire marcher cet esprit, travaux dirigés, essaye de faire marcher cet esprit critique. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont à des années-lumière de ça, parce que depuis qu'ils sont tout gamins, on leur a toujours fait ingurgiter, comme je vous le disais, des savoirs sans jamais essayer de le confronter, sans jamais essayer de le remettre en
du
cause.
Du coup, vous avez changé de
perspective. Ah ben, j'ai totalement changé de
méthode. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait comme Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, vous êtes mis debout sur la table en disant maintenant Captain
non,
Mike.
Non,
Captain.
Non, du tout, du tout.
J'ai opté, en revanche, si ça vous intéresse,
pour un système plutôt à l'anglo-saxonne qui est de dire moi, je ne vais pas vous donner du savoir et vous serez passif à ingurgiter ce savoir pour le restituer en fin de semestre. Je vais au contraire vous demander d'aller chercher vous-même le savoir et dans nos travaux dirigés, nous allons confronter ça ensemble. Et c'est à partir de ça, à partir de cette confrontation d'idées, que vous allez vous faire votre propre opinion. C'est comme ça qu'on construit des êtres éclairés. C'est la base. C'est quand même scandaleux qu'en troisième année de lettres à la Sorbonne, les étudiants soient démunis quand on a ce genre de...
Intellectuellement, ce genre, 20 ans, c'est ça ?
Une vingtaine d'années, oui.
Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on regarde, on n'essaie jamais de s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. On parlait à l'instant de l'Allemagne et de la Suisse concernant l'apprentissage. Mais il y a en Belgique quelque chose qui est très intéressant, qui commence en primaire et en secondaire. Ils ont des cours de morale. Cours de morale et d'instruction civique. Non, il ne faut pas dire oula.
Je donne le flambeau du vieux réac à François Lambert.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même professeur qui fait les cours de morale et d'instruction civique sur les trois années. C'est-à-dire que les enfants suivent le cours. Et ce cours de morale et d'instruction civique, ça permet à l'élève, aux élèves, d'avoir des relations avec les profs sur des interrogations. Où suis-je? Quelle est ma place dans la société? Quelles sont les ambitions? Quelles sont les religions? Comment s'intéresse une religion par rapport à une autre? Donc c'est un cours qui est complètement orienté sur... Alors on appellerait ça aujourd'hui le développement personnel pour faire un peu pompeux, et sur le vivre ensemble pour faire un peu politiquement correct, mais c'est exactement ça. Et ce sont des cours avec des programmes qui durent sur trois années scolaires et qui fonctionnent d'une certaine façon. Et moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'essaie jamais d'expérimenter ce qui marche ailleurs. Voilà. Petite suggestion.
Je regardais
de manière suspicieuse, du coup.
Je m'interroge qu'on creuse ce sujet-là de manière très approfondie, parce qu'il y a eu le drame de la décapitation de Samuel Paty, c'est complètement légitime. Et en même temps, quand on prend un tout petit peu de recul, il y a de moins en moins de gens qui croient en Dieu dans ce pays, quoi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que toutes les enquêtes, là, je regardais, il y a l'enquête de l'IFOP qui montre en 10 ans, il y a 7% de Français en moins qui croient en Dieu. Maintenant, il y a une majorité de Français qui ne croient pas en Dieu. Donc, et quand on fait des enquêtes, y compris sur les jeunes générations...
C'est pas les mêmes que ceux qui vont se plaindre à l'école.
Non, je sais pas, mais je veux dire, il y a des tendances sociétales fortes qui est que, globalement...
Est-ce que la laïcité y est pour quelque chose ? Dans un sens ou dans un autre, hein ?
Alors, c'est possible. C'est possible parce que il y a des gens qui se disent.
Alors que la laïcité, attention, hein, ça n'est pas. Et le gouvernement insiste beaucoup là-dessus. Je me souviens encore de Marlène Schiappa quand elle était en charge.
Ça n'est pas être agnostique.
Voilà, ça n'est pas. Voilà, ce n'est pas pour contrer les religions.
Non, mais effectivement, c'est pas une spécificité française d'ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres pays où aussi la pratique religieuse recule, la croyance recule. On est quand même. Il y a des pays où c'est...
Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une meilleure acceptation de la laïcité quand les religions reculent ? C'est ce que vous essayez de dire ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que la laïcité, fondamentalement, elle n'est pas contestée, elle est pas contestée par la majorité des Français. Elle peut être contestée par la majorité des intégristes ou des obscurantistes ou des gens qui ont une pratique de la religion, quelle que soit la religion, donc qu'ils considèrent qu'elle est plus importante et supérieure aux valeurs de la République ou à toute autre forme de système philosophique.
Et peut-être qu'il y a... À la phrase de Monseigneur de Moulin-Beaufort dernièrement.
Peut-être qu'il y a une forme d'expression religieuse, parce que c'est vrai que y a des radicalités qui s'expriment dans tous les pores de la société, donc il y a peut-être aussi une radicalité qui s'exacerbe dans des milieux de gens qui sont croyants, mais quand on les compare à la majorité des gens qui, eux, le sont moins, et en tout cas sont moins, dont la vie est moins déterminée par la religion, moi je regarde ça à l'échelle de deux générations dans ma famille, tous mes parents et mes grands-parents ont eu une éducation religieuse forte, très forte, les grands-parents, les parents un peu moins. Moi, j'en ai eu une aussi, mais franchement, ça ne m'a rien fait, quoi. J'ai suivi des cours de catéchisme, tout ça, mais j'en suis sorti complètement indemne. Je suis parfaitement agnostique, quoi.
Je suis en désaccord total avec ce qui vient d'être dit.
Oui, j'ai vu.
Il y a des enquêtes d'opinion, sur le sentiment de croyance ou pas croyance, c'est pas moi.
Ce qui est vrai, c'est que la foi où le nombre de croyants en France recule, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que vous êtes pour autant laïque et que vous êtes pour autant convaincu de ce principe de laïcité. Bien au contraire, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que ceux qui ne croient pas considèrent qu'il ne faut surtout pas offenser ceux qui croient. Et donc c'est sans ça qu'en fait on a un recul de la laïcité, donc c'est totalement l'inverse. Et il y a effectivement, un paradoxe qui est de dire, d'un côté on a un recul de la foi, et de l'autre on a une résurgence du fait religieux dans l'espace public. Et c'est dû à quoi ça? Mais précisément parce que à partir du moment où la République,
que je voulais souligner.
À partir du moment, oui, mais il faut l'expliquer. À partir du moment où la République n'est pas capable de,
c'est une réalité.
Et notamment à l'école, de donner des repères à des gamins.
Mais voilà,
eh bien,
retourne.
La nature ayant horreur du vide, c'est la sphère domestique et donc le fait religieux qui prend le pas. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez moins de croyants en France que la laïcité devient incontournable. Au contraire, je pense que plus vous avez de croyants, plus le principe de la laïcité est défendu. Parce que précisément, on a bien conscience que l'exercice de sa foi, c'est une liberté. Et quand on n'en a pas, malheureusement, on considère qu'il ne faut pas aller en opposition à la foi d'autrui.
Mais d'accord avec ça, dans le sens où l'école n'est plus en capacité de fournir les repères nécessaires pour faire la différence entre, une fois de plus, respecter une religion
vous
et respecter
l'arrêt de mort de l'école
un croyant.
Tout de suite, quoi.
Non, l'arrêt de mort tel qu'elle existe aujourd'hui dans notre pays, on peut, puisque si on regarde les derniers, classements PISA. Non, mais si on regarde les derniers classements PISA notamment, on en est en termes de, par exemple, l'inégalité qui pèse sur le parcours scolaire, on est au même niveau que le Chili. Voilà, ça vous donne un repère, ça c'est intéressant.
Je ne sais pas, je ne connais pas le Chili.
Le système éducatif chilien et le système éducatif français, normalement, ne doivent pas être au même niveau. Et surtout quand on parle d'inégalité scolaire. Non, mais surtout quand on parle d'inégalité scolaire. C'est factuel, surtout aussi quand on regarde par exemple par exemple les différentes compétences que l'on donne et que l'on distribue aux élèves, les points aux épreuves de calcul en 1980 et les points aujourd'hui à la même époque ont chuté. Pareil au niveau de lecture et pour les maths, c'est les classements types où la France recule et recule chaque année. Donc vous voyez, une fois de plus, l'école telle qu'elle est aujourd'hui en France n'est plus la meilleure ou n'est plus celle qu'on aime nous faire croire dans certains discours et dans certains ministères. C'est bien ça le problème.
Pas d'accord, voilà. Alexis Bachelet ? Suspicieux, à nouveau.
Non, mais je c'est le côté un peu péremptoire et affirmatif. Je pense que
c'est les classements,
quand on se compare, on s'inquiète. Quand on s'évalue, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure. Donc il y a des classements, mais je ne pense pas que la France soit un pays qui est totalement décroché par rapport au système éducatif des grands pays qui nous entourent, que ce soit l'Angleterre, l'Italie, peut-être l'Allemagne, parce qu'ils ont une autre culture, parce qu'ils ont un autre rapport à l'école, effectivement, mais qui est lié à leur manière aussi de concevoir...
Alors, le classement PISA, c'est l'année 2019. Il faut attendre 2022 pour le prochain. La France est classée 23e sur 79 pays évalués. Voilà. Ça, c'est le général, le classement général. Ce n'est pas le Tour de France, c'est le classement PISA 2019.
Là encore,
à partir de ça, on ne peut pas non plus en tirer des analyses comme quoi tout le système éducatif serait bon à jeter à la poubelle.
Non, mais
je crois qu'effectivement...
On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
Parce qu'on dit on jette le bébé avec l'eau du bain. Moi, je pense que le système éducatif français, de toute façon, il a tendance, on peut le lui reprocher, mais à perpétuer les inégalités sociales. On peut se poser la question, est-ce que c'est à travers l'école qu'on doit lutter, est-ce que c'est à travers l'école que la lutte contre les inégalités sociales se fait le mieux? Quand vous voyez la difficulté, je parle de ce que je connais dans ma commune, à faire respecter la carte scolaire. C'est-à-dire que
la carte scolaire
mais c'est ça les vrais sujets.
La carte scolaire a tué l'éducation nationale. Je suis assez d'accord pour dire que oui, on assiste à un
naufrage. Si c'est la liberté,
tournent la carte scolaire, vous n'avez qu'à voir où sont les enfants de profs. Il n'y en a aucun qui respecte la carte scolaire. Donc franchement, la carte scolaire, c'est la pire idée.
La carte scolaire,
c'est l'obligation d'aller dans l'établissement
près de son logement.
Les enfants de journalistes.
Absolument. Et du coup, ça a créé un ghetto, c'est-à-dire qu'on vit dans une banlieue qui n'est pas terrible, on va dans un lycée qui n'est pas terrible, et après, on s'inscrit à la NPE qui n'est pas terrible non plus. Donc la carte scolaire, c'est le pire des inventions qui ait pu être faite sous couvert d'égalité. L'éducation nationale sous couvert d'égalité a tué toute notion d'effort, toute notion de succès, toute notion de talent. Or, je suis désolée de le dire, tout le monde n'a pas les mêmes neurones. Il y en a qui sont doués pour le dessin, d'autres pour la peinture, d'autres pour les maths, d'autres pour rien. Mais c'est pas grave, ils peuvent être doués en gym. Et cette idée que tout le monde doit réussir, que tout le monde doit arriver et qu'on doit faire les mêmes enseignements pour tout est une absurdité franco-française, alors peut-être issue de mai 68. Et on a eu par-dessus le Marseille tous les pédagogues qui se sont dit « Ah, mais l'enfant doit lui-même bâtir son savoir. Alors, mon petit chéri, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du blé, le grain de blé à travers les siècles ?» Alors, on a fait le grain de blé à travers les siècles. Et ces pauvres mômes, à l'arrivée, ils ne savent même pas si Vercingétorix, il a été contemporain ou pas de Napoléon. Donc, il faut arrêter avec la folie française de la carte scolaire, les programmes scolaires, les enseignants qui sont lâchés dans la nature, le recrutement des profs, quand vous voyez le niveau d'orthographe des profs aujourd'hui. Mais je suis d'accord, le salaire. Même, mais aujourd'hui, on est dans un système qui est dingue. Mais oui, mais on a le budget de l'éducation nationale le plus important de l'Europe. Donc les profs sont mal payés.
Mais oui. Et ensuite, pour revenir avec cette idée qu'il ne faut pas jeter l'école avec l'eau du bain ou les élèves avec l'eau de l'école, je ne sais plus comment je dois le formuler par ailleurs, mais c'est quand même bien pour appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, l'école française décroche. J'ai retrouvé certains chiffres. On parlait des maths et vous me posez la question de savoir si globalement l'école décroche par rapport aux autres pays européens. Laissez-moi vous dire que oui, par exemple, en calcul, on est derrière le Portugal, le Danemark, la Pologne, l'Italie, la Bulgarie. Les chutes des compétences en calcul, je prends une source très précise, qui est une enquête lire, écrire, compter, celle de 2019. J'ai des chiffres très précis. Le score moyen en 1987, c'était 250. En 2017, c'est seulement 176. Et en effet, déjà depuis des années, qu'on soit fils de cadre ou fils d'agriculteur, les inégalités pèsent de plus en plus. Donc, est-ce que ce sont des chiffres chiffrés, est-ce que ce sont des chiffres chiffrés, j'espère, mais est-ce que ce sont des chiffres venus d'études sérieuses? Oui, un peu, je ne vous cache pas. Toutes ces données sur l'école, ça m'étourdit. Mais c'est surtout pour vraiment peser, est-ce que malheureusement que de l'eau, c'est bien ce que je vous reproche depuis quelques semaines. Mais
si vous nous écoutez.
Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont besoin d'alcool pour écrire ou pour penser.
Bukowski
en est le... Mais pour être beaucoup plus sérieux sur ça, en effet, il ne faut peut-être pas jeter l'école française avec l'eau des élèves ou l'eau du bain, mais il est quand même très important que où qu'on pose notre regard sur les disciplines enseignées, sur les classements qu'on a, que ce soit en calcul, en écriture, en pensée, en inégalité, on décroche sérieusement.
Bien, et ça, c'est en effet le sujet.
Je rigole pas en 30 secondes, c'est ça, c'est, ouais. J'ai bien compris.
Je confesse
à avoir...
Je reconnais dans mon frère.
Mais lui, on lui reproche pas de pas avoir d'alcool quand il bafouille, mais bon.
Parce que c'est contagieux.
Moi, j'y arriverai pas.
Ça a fait le même métier que moi. C'est contagieux. À la télé, à la radio, s'il y en a un qui bafouille, tout le monde bafouille. Donc, Pierre Lissière, en 15 secondes, du coup.
En 15 secondes, je confesse avoir à moi seul fait chuter le niveau général en calcul des Français d'il y a une décennie, maintenant, vous vous en doutez. Mais il y a un paradoxe là encore. Il y a un paradoxe, c'est que effectivement, comme on a voulu donner le bac à tout le monde, c'est un peu ce que disait Françoise Laborde, on a considéré le bac comme étant un prérequis indispensable pour l'accès au monde du travail, donc on l'a donné à tout le monde pour pas qu'il y ait d'inégalité.
Oui, c'est ça.
Du coup, on a nivelé un petit peu le niveau par le bas pour que tout le monde puisse l'avoir. Mais paradoxalement, le niveau général baisse, mais on a les meilleures élites qui s'arrachent dans le monde entier. Les Américains viennent nous chercher, nos ingénieurs.
Et qui paient des cours privés pour faire des enfants dans les établissements publics.